Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Il s'est inventé un pays de cristal, un pays imaginaire. Elle s'est fait un programme de solitude à perpétuité, entourée de livres et de partitions. La vie est, paraît-il, souvent une suite de rendez-vous manqués, mais leur rencontre a été lumineuse. Elle lui a transmis le goût des mots. Il s'est laissé conduire par l'écriture vers une issue libératrice. Elle, c'est Ariane Ferrière, professeur de français, et lui, c'est le petit Antonin, son élève de sixième. Il y a sans doute dans l'écriture quelque chose de magique qu'il ne faut pas toujours chercher à élucider. Tel est le message d'Eliane Cerdan dans ce roman initiatique, Le petit Antonin, paru chez Serge Safran Éditions. Bonjour Eliane Cerdan.
Bonjour.
Bonjour à nos auditeurs. Nous sommes très heureux de vous recevoir à Parole d'auteur. Je salue nos fidèles auditeurs pour leur rappeler qu'ils peuvent réagir à cette émission sur notre site et la retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Eliane Cerdan, première question. Est-ce que par hasard, Ariane, ce n'est pas un peu Eliane ?
Oui, alors quand j'ai envoyé ce manuscrit à mon éditeur, à Serge Safran, il m'a envoyé un message tout de suite en me disant « c'est un peu votre chant du cygne, parce que ce n'est pas difficile de comprendre qu'Ariane Ferrière, c'est vous ». Et voilà. Alors le problème aussi, c'est que très souvent, quand on écrit un récit à la première personne, et si par-dessus le marché, il y a des points communs avec le narrateur, immédiatement, tous les lecteurs décodent que le personnage, c'est vous. Donc, au cours des signatures, et en particulier dans les signatures que j'ai faites dans la ville où j'habite, c'est-à-dire à Castres, on m'a demandé immédiatement, mais enfin, tu n'es pas malade. Ou alors, mais vous n'êtes pas malade. Parce que vraiment, pour eux, Ariane Ferrière, c'était forcément Eliane Cerdan. Alors, il y a des points communs, puisqu'elle est enseignante et j'ai été enseignante toute ma vie, professeure de lettres, comme moi, la même passion pour l'enseignement. Mais la différence, c'est tout de même qu'elle n'est pas mariée, elle n'a aucune famille, elle n'a pas d'enfant. Et ça, par contre, ce n'est pas du tout mon cas. Et puis, on ne peut jamais décoder. Un personnage n'est jamais un copier-coller de la réalité. Il y a toujours une cristallisation de plusieurs influences, de plusieurs modèles pour créer le personnage.
Voilà. Donc, Ariane reste bien un personnage de roman.
Oui, tout à fait.
Nous le disons directement à nos auditeurs. Donc, Eliane Cerdan, pour vous présenter un petit peu à nos auditeurs, vous êtes née à Beyrouth, vous êtes née dans une famille qui était installée justement dans ce pays depuis des siècles. Pas exactement, non ?
Non, installée en Orient.
En Orient.
Mais
oui.
Beyrouth, pour nous, n'est qu'un passage.
D'accord.
Voilà, ils étaient par contre, pendant plusieurs générations, à Smyrne.
À Smyrne, d'accord. Donc, vous êtes ensuite de retour en France, vous passez par Draguignan, par Aix-en-Provence, par Montpellier, Carpentras, Marseille, Antibes, et enfin, vous arrivez à Castres. Vous avez produit une œuvre singulière sur des thèmes récurrents qui sont l'exil, les racines, la notion de chemin intérieur, de paradis perdu, souvent des souvenirs d'enfance, la quête de soi, le monde imaginaire. Donc, tout un ensemble de sujets qui vous sont familiers et qui sont surtout, qui constituent la matière première de l'ensemble de votre œuvre.
Oui, je crois que le thème le plus inspirant et qu'on retrouve dans toute mon œuvre, c'est l'exil. J'ai justement eu à Lille un prix qui s'appelle le prix des racines et des mots, et c'est le prix de la littérature de l'exil. Et c'est un thème qui est vraiment récurrent, en particulier dans un livre qui s'appelle Le rivage intérieur, mais on va le retrouver chez différents personnages tout au long de mon œuvre. Et dans Le Petit Antonin, le personnage exilé est un Italien, un écrivain italien, Bruno Montale, qui va donner aux élèves, lorsqu'ils vont lui demander une phrase en italien, il va donner la phrase «Il nessuno paese mi posso accasare», hein, c'est-à-dire «il n'y a pas un seul pays dans lequel je peux». Et accasare, c'est plus que s'installer, ça veut dire je ne peux épouser aucun pays. Je me sens étranger partout. Et ça, c'est la sensation que j'ai eue toute ma vie. Voilà.
Alors, il y a de nombreux auteurs qui ont écrit sur l'exil. Et avec effectivement cette notion de quasi-impossibilité de se retrouver chez soi quelque part. Mmh. Et. Qui est accompagné par cette recherche et cette attirance permanente du pays d'où l'on vient, du pays d'origine.
Oui. D'ailleurs, j'avais fait une conférence dans laquelle on me demandait de parler des livres qui avaient marqué ma vie. Et j'avais commencé par les livres d'enfance. Et parmi les livres qui ont vraiment marqué mon enfance et ma jeunesse, il y avait « Le pays où l'on n'arrive jamais » d'André Dautel, que vous connaissez peut-être.
Tout à fait.
Et qui contenait déjà en germe tous les thèmes qui allaient m'inspirer par la suite, puisqu'il y avait l'enfance, il y avait le pays que l'on cherche et qu'on ne trouve jamais. On pourrait penser qu'un exilé n'a qu'une idée, c'est de retrouver un endroit où s'ancrer, mais en réalité, il va rester nomade d'une certaine façon toute sa vie. C'est le Clésio en particulier dit qu'il n'envie absolument personne, sauf ceux qui ont un village, et que pour lui, c'est vraiment la chose la plus merveilleuse au monde que d'avoir un village. Mais en même temps, il dit que l'écriture lui a donné un ancrage et qu'il y a un moyen d'échapper à l'exil, c'est précisément l'écriture.
Voilà. Alors, dans les ouvrages que vous avez écrits, donc il y a « Les noces de cendres », qui a été publié en 2006, donc on peut le qualifier d'un roman autobiographique, celui-ci.
C'est ce qu'on appelle maintenant l'autofiction, mais c'est véritablement autobiographique et... Je dois dire que j'ai dû attendre la mort de mes parents pour pouvoir écrire ce livre. Voilà.
Alors, Le rivage intérieur auquel vous venez de faire allusion, la fresque, donc qui parle d'exil, qui parle de perte progressive de repères, toujours un petit peu dans le même registre. Ensuite, La ville haute en 2016, et ensuite en 2019, L'Algérois, où on retrouve encore cette notion de paradis perdu, d'écho nostalgique.
Oui, puisque j'ai mis en exergue une citation de Rimbaud, et en effet c'est un personnage qui a perdu l'innocence et qui a perdu le paradis dans lequel il vivait dans l'enfance. Ouais. Tout à fait.
Donc, à ce titre, on peut dire que Le Petit Antonin est en pleine cohérence avec les thèmes que vous avez déjà développés.
Tout à fait. Mais enfin, bon, c'est involontaire, je dirais. C'est inconscient. Il faut bien comprendre une chose, que c'est qu'un roman, ce n'est pas un essai. C'est-à-dire, quand je commence à écrire un livre, je n'ai pas du tout un plan préconçu. Je ne me dis pas qu'est-ce que je pourrais écrire qui puisse fonctionner commercialement, qui puisse répondre à tel et tel besoin des lecteurs. Ça, c'est une chose qui ne m'effleure jamais. Quand je commence un livre, il y a soit une image. Pour la fresque, c'était une tenture très belle dans un palais italien, probablement du Quattrocento. Et c'est à partir de cette obsession, de cette tenture, que le personnage de l'exilé siennois s'est créé. Pour la ville haute, j'avais rêvé que j'étais encore petite fille et je marchais dans les rues de la vieille ville de Provence où j'ai passé une partie de ma jeunesse. Et j'étais tellement bien que je me suis dit, je vais continuer ce rêve. Et le livre est parti de là. Mais il part d'un point plus ou moins précis. Mais ensuite, le livre s'en va dans toutes les directions qu'il veut. Et ce n'est plus vous qui contrôlez. Voilà. Donc le petit Antonin, il y a eu au départ cette idée d'un enfant et d'un enfant malheureux pour des raisons à la fois qui appartiennent à ma biographie familiale et puis en même temps à tout ce que j'ai pu voir avec les élèves, un enfant de parents séparés et qui avait de gros problèmes. Et puis à partir de là, s'est greffé le personnage de l'enseignante qui n'était pas forcément prévu au départ, le personnage de l'écrivain. Au fur et à mesure, les personnages s'imposent, mais sans que ce soit des choix qui correspondent vraiment à la conscience claire et à une volonté déterminée. Voilà.
Alors, même s'il n'y a pas de volonté prédéterminée, il n'en reste pas moins qu'on peut quand même dire que... Ce livre vous appartient bien à votre univers, si on en juge les sujets traités dans les autres livres. C'est ça que je...
Oui, tout à fait.
Que j'appelais la cohérence.
Tout à fait.
Alors, ce petit Antonin, il s'est créé un monde.
Oui.
Et vous...
Oui, et d'ailleurs, bravo d'avoir employé le mot créer, parce que la citation que j'ai traduite, parce que je ne voulais pas la laisser en italien, de Giuseppe Ungaretti, la citation exacte, ce n'est pas « je me suis inventé un pays de cristal », c'est « mi sono creato un paese di cristallo », hein? Donc c'est « je me suis créé un pays de cristal », hein? C'est exactement ça, oui.
Voilà. Alors, il s'invente un pays de cristal, un pays où il oublie ses chagrins. Et je vais lire quatre lignes pour nos auditeurs pour qu'ils perçoivent ce pays, ce monde. Le soir, avant de m'endormir, j'invente un pays. Il n'a pas de nom. C'est un pays où la terre est rouge et où il fait chaud. On n'a pas besoin de vêtements. Sur les arbres, il y a des lanternes en cristal de toutes les couleurs que le vent fait teinter. Quand j'y pense, c'est comme si j'entrais dans une bulle ou si j'étais sur une planète... À l'autre bout de la galaxie, tous mes chagrins se brouillent. Dans ce pays, il n'y aurait personne. Donc c'est un pays inventé de toutes pièces, c'est un pays refuge.
Oui, tout à fait, c'est un pays refuge. Et c'est sa seule façon d'échapper à un quotidien qui est un quotidien douloureux et difficile. Et bon, je ne veux pas raconter la fin de l'histoire,
tout
mais
fait,
il va y avoir un moment donné où, de la même façon que ce pays, c'est comme une bulle, la bulle, à un moment donné, va éclater et il faudra qu'il trouve une autre solution. Mais ce que je voulais dire, c'est que je considère aussi, et c'était valable pour d'autres livres comme La Fresque ou même Le Rivage intérieur, que les mots sont un refuge. Alors j'ai envoyé le livre à François Cheng, l'académicien que vous connaissez peut-être, et je lui ai dit dans le petit mot qui allait avec le livre que pour moi les mots c'était vraiment le moyen d'échapper à l'exil, d'échapper à toutes sortes de choses désagréables, et qu'on pouvait jeter l'encre au pays des mots. Et il m'a répondu, les mots ne sont pas seulement un ancrage. Notre langage est relié au Verbe éternel et sublimé par l'écriture, les mots vont justifier notre destin. C'était beau comme réponse.
Magnifique.
J'avais trouvé que c'était
magnifique.
Très beau. Et en effet, il est taoïste, hein, je pense. Hein, bon. Donc il ne se cantonne pas à l'idée que les mots sont un refuge. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que votre roman est un roman initiatique?
Oui. Oui, tout à fait, puisque quand tout un tas de choses vont changer dans la vie et dans la psychologie de cet enfant. Au début de l'histoire, il est en refus absolu du remariage de son père. Il déteste sa belle-mère, qu'il accuse de ne pas savoir faire la sauce tomate, entre autres défauts. Il est en opposition frontale avec sa mère, qui a un compagnon dont on verra ensuite que c'est un compagnon violent. Il n'a plus un seul ami dans le collège parce qu'il est devenu agressif et il s'est battu avec son meilleur ami. Et tout au long du livre, on va assister à la transformation de cet enfant qui va être conduit à l'adolescence et qui, à la fin du livre, a changé complètement d'attitude, aussi bien avec sa belle-mère qu'avec... Il a des amis et il va connaître une renaissance. D'ailleurs, je crois que c'est le mot qu'a employé... Je pense que c'est le journal Libération qui a fait un article en parlant de renaissance. Voilà. Et en effet, c'est une renaissance.
Alors, ce roman, donc, initiatique, c'est aussi l'histoire, finalement, de deux solitudes qui vont se croiser.
Oui. Et c'est, au fond, quelque chose qui doit être très important pour moi, parce que c'était le même schéma dans La Ville Haute, où un vieil homme, exilé lui aussi de Turquie, allait rencontrer une petite fille par hasard, et il allait entre eux y avoir une espèce de transfusion psychologique. Et là, la transfusion va très loin, parce que elle va lui redonner le goût de vivre, elle va lui permettre de trouver une issue à sa douleur, et elle va transformer son destin. Voilà.
Alors, elle transforme son destin, et elle transforme son destin par rapport à la transmission des mots. Elle est carrément passeuse de mots.
Oui. D'ailleurs, bon, tous les articles de journaux ont insisté, en particulier le Figaro ou l'Obs ont insisté en disant que c'était véritablement un hommage aux enseignants qui sont des passeurs de flammes. Et je considère que c'est le premier rôle d'un enseignant de transmettre une flamme. Et d'ailleurs, à l'origine, le livre ne devait pas s'appeler Le Petit Antonin, il devait s'appeler La Flamme Sourde, qui était une expression empruntée à Colette. Mais mon éditeur, pour qui j'ai la plus grande estime et la plus grande amitié, et nous nous entendons très très bien sur tous les chapitres, mais sur les titres, il y a souvent des désaccords. Alors, pour la fresque, je voulais L'Arbre au Samar, il a refusé tout net. Et pour La Flamme Sourde, il a dit non, c'est trop poétique et il faut trouver un autre titre. Et on en est arrivé au Petit Antonin. Mais ce qui compte pour moi dans ce livre, c'est en effet la transmission d'une flamme et l'idée que les enseignants sont des passeurs. Voilà.
Alors, sur la forme de ce livre, quand on l'aborde, on lit, défile des chapitres du point de vue de l'institutrice et du point de vue du Petit Antonin. C'est carrément un livre à deux voix.
Ah, c'est un livre à deux voix, voilà. Oui. C'est un livre à deux voix, à la différence de La Ville Haute. Dans les deux cas, c'est un narrateur-personnage, c'est-à-dire « je ». Alors que dans La Ville Haute, je ne suis pas arrivée à faire dire « je » à la petite fille. Et donc, d'emblée, c'est la troisième personne qui s'est imposée. Je l'ai appelée l'enfant et elle n'est nommée qu'au dernier chapitre. Mais bon, on ne choisit pas, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ce n'est pas l'intelligence qui choisit. Par exemple, vous essayez d'utiliser la première personne et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, vous êtes obligé de changer. Vous avez envie de donner une moustache à un personnage et ce n'est pas possible. Et pour le choix des prénoms, voilà, ce qui choisit en nous, c'est l'inconscient, c'est pas la conscience claire.
Et donc la sensibilité et l'émotion peut-être aussi.
Oui.
Voilà. Alors au sujet de l'émotion, donc il y a beaucoup d'émotions dans ce livre, et je vous propose de vivre un petit moment d'émotion musicale avec Schubert et le moment musical numéro 2.
paroles d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie d'Éliane Cerdan pour son ouvrage Le Petit Antonin. Après avoir eu la chance et le plaisir d'écouter un extrait du moment musical numéro 2 de Schubert, que vous citez d'ailleurs dans votre livre. Vous le citez à quelle occasion ?
Alors je le cite parce que nous avons eu la chance dans les années où j'enseignais de pouvoir participer à une opération qui s'appelait Collège au cinéma. Et nous pouvions 3 fois par an amener les élèves voir un film sur lequel il était possible de travailler avant, après, et de les initier à tout le vocabulaire du cinéma. Et parmi tous les films que nous avons projetés, je crois que celui qui a le plus ému les élèves et que moi j'ai beaucoup aimé, c'est « Au revoir les enfants » de Louis Malle. Et il a choisi comme fond musical de ce film le moment musical numéro 2 de Schubert. D'autre part, Schubert est mon compositeur préféré.
Voilà. Voilà. Alors, revenons directement au Petit Antonin. On sent, en parcourant ce livre, qu'il y a une éloge aux enseignants, à la littérature, à la poésie en particulier. Et il y a un autre aspect, c'est l'aspect, pour le Petit Antonin comme pour sa prof de français, une espèce de volonté de se dégager des liens qui enchaînent aux normes du comportement social habituel. Est-ce qu'on peut dire que ce sont deux rebelles ?
Oui, ce sont deux solitaires et oui, ce sont deux rebelles. Lui, c'est un peu normal parce qu'il est en pleine crise de préadolescence. Elle, c'est un peu moins normal, mais d'une certaine façon, l'échec de la vie sentimentale, l'éloignement de la région où elle était heureuse, ont fait d'elle quelqu'un qui s'est un peu recroquevillé et qui a choisi de vivre pour les livres. D'ailleurs, au moment où elle va mourir, sa plus grande préoccupation, c'est de savoir ce qu'on va faire de ces livres. Voilà, alors oui, en effet, vous avez raison.
Ouais. Alors, le contexte de ce livre, c'est donc le Petit Antonin qui est en sixième et sa prof de français qui vont se rencontrer. Alors, comment le premier contact qui va être annonciateur finalement d'une relation relativement étroite, comment s'établit ce premier contact ?
Alors en fait, elle lui demande de passer au tableau pour écrire une phrase à la troisième personne du pluriel. Et spontanément, il écrit « Mes parents aiment bien ». Et puis là, à ce moment-là, il se rend compte que ses parents ne font jamais plus rien ensemble et que le pluriel à deux est impossible. Et il se met à pleurer. Et c'est à ce moment-là qu'elle va prendre conscience qu'il se passe quelque chose avec cet enfant. Et à partir de là, elle va essayer de parler avec lui. Et voilà.
Alors, nous allons revenir sur les différents personnages. Et auparavant, vous donnez très peu de renseignements pour qualifier le contexte. On ne sait pas dans quel lieu le roman se situe. On fait des hypothèses. On peut faire des hypothèses. On a une information sur l'année scolaire 2006-2007, mais pas plus. C'était volontaire ?
Je déteste le réalisme. Voilà. Et en temps normal, quand un livre est en particulier à la troisième personne, je supprime tous les dialogues. Je trouve que les dialogues, c'est véritablement quelque chose qui gêne l'homogénéité d'un texte. Il y a une atmosphère dans un texte et quand elle est créée dès les premières pages et ensuite il faut que tout le roman ait une unité. Hein, c'est Proust, je crois, qui reproche à Balzac de faire des collages et des marqueteries avec tous les éléments qu'il recueille, alors qu'en fait, il faudrait créer une pâte uniforme et il faut que cette pâte uniforme ressemble à quelque chose et soit homogène. Donc, oui. Alors après, vous n'avez pas reconnu le contexte, mais toute la ville de Castres a reconnu qu'il s'agissait du collège Jean Jaurès, où Jean Jaurès a fait ses études et qui est très connu à Castres, et dans lequel j'ai terminé ma carrière. Voilà. Donc, beaucoup d'égards, mais il est nommé, à un moment donné, il est nommé. Oui. Hein, voilà. Oui.
Ce que j'avais retenu, c'est que c'était probablement dans le Tarn. Alors, Ariane Ferrière, quelle est sa psychologie ?
Eh bien, elle est musicienne quand même, hein. Il ne faut pas l'oublier. Elle est musicienne, elle joue du violoncelle, elle chante dans un chœur que je n'ai pas nommé, mais il s'agit du chœur régional à Toulouse, dans lequel j'ai chanté pendant de nombreuses années, sous la direction de José Aquino, et c'était Michel Plasson à l'époque qui dirigeait l'orchestre. Et ensuite, oui, elle est d'une très grande sensibilité, et elle s'est créée un peu ce qui m'est arrivé aussi. Elle s'est créée une géographie intérieure, un paysage intérieur qui lui permet d'échapper à l'exil et de vivre dans un monde, elle aussi, comme le petit Antonin, et c'est leur point commun, dans un monde qui est plus imaginaire que réel. Elle fuit le réel. D'ailleurs, il y a tout un passage sur les vacances de Noël où elle a arrêté son téléphone, elle a refusé toutes les invitations et elle s'est enfermée dans sa maison avec ses livres et elle est heureuse comme ça, voilà.
Et alors, elle a fait ce choix de vie de manière volontaire ou un peu par défaut ?
Je pense qu'elle a fait ce choix de manière volontaire. Par contre, les raisons pour lesquelles elle est venue enseigner dans cette région ne sont pas très claires. Moi, je ne sais pas tout de mes personnages, hein, bon, ne sont pas très claires. Et ça, par contre, mais ça aussi, c'est comme le désert des Tartares de Nino Buzzati. C'est-à-dire, on arrive dans un endroit en se disant, j'y suis provisoirement, j'y resterai quelque temps, mais je retournerai là où j'ai vraiment envie d'aller. Et puis finalement, elle va mourir avant d'avoir pu retourner, exactement comme le lieutenant Drogo dans le désert des Tartares. Voilà.
Alors, on reviendra peut-être de manière peut-être plus approfondie par rapport à son souci de recherche de racines, d'éloignement par rapport à ses racines. Avant, je voudrais que vous nous parliez de Bruno Montal.
Alors Bruno Montal, et c'est un écrivain que j'ai inventé, je crois que je lui ai donné le nom de Montal et parce que j'ai beaucoup d'estime pour un écrivain italien qui s'appelle Eugenio Montal, c'est probablement pour cette raison. Et il va servir, alors quelqu'un dans un article a dit qu'il était catalyseur, que c'était le catalyseur et que c'était grâce à lui que la transmission entre, et c'est vrai, entre Ariane Ferrière et l'enfant, va pouvoir opérer. Et il n'a pas d'enfant, il a l'impression de se reconnaître dans ce petit garçon, et il est très ému quand il va lire son premier devoir, puisqu'il demandera à l'enseignante « Mais qui est cet enfant ?» Au début, ça va être un peu difficile, parce que le petit garçon considère qu'il est vieux, bien habillé, mais vieux, et qu'il est impossible qu'il comprenne ses problèmes, en particulier quand il aura des problèmes amoureux, il se dit beaucoup trop vieux pour savoir de quoi il s'agit. Et puis il va y avoir un moment donné où l'enfant va comprendre que cet adulte aussi a eu des problèmes sentimentaux, et qu'il peut comprendre, et puis à partir de là, la relation va se faire et il va devenir celui qui s'en doute ensuite, qui déjà en lui proposant ce concours de nouvelles et en lui permettant d'obtenir un prix, va changer sa vie et son destin. Voilà.
Alors c'est vrai qu'à partir de là, on peut considérer qu'il est catalyseur. Est-ce qu'on ne peut pas aussi considérer que c'est Ariane qui ne se sent peut-être pas complètement légitime vis-à-vis du petit Antonin pour le conseiller, pour l'amener plus loin que son champ habituel d'intervention.
Oui. Je crois que ce n'est pas vraiment le problème qui la préoccupe. Ce qui la culpabilise, c'est qu'elle s'est peu à peu attachée à cet enfant et qu'elle trouve qu'il a un style. Et ça, ça m'est arrivé. J'ai eu à Agen des élèves qui étaient, c'était pire que ça, qui étaient de véritables voyous et des marginaux, mais qui étaient capables d'écrire des devoirs pleins de fautes d'orthographe, mais sur le plan du style et de l'imagination, tout à fait remarquables. Bon. Donc, elle s'est attachée à cet enfant, et elle se demande à un certain moment si elle ne s'est pas trop attachée, et si elle n'est pas devenue subjective, et elle a besoin du jugement de quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'elle fait lire la copie à Bruno Montal.
Oui, voilà, elle a besoin d'un regard tiers.
Tout à fait, un regard extérieur. Voilà.
Revenons un instant à un aspect particulier des personnages, c'est le choix des prénoms et le choix des noms. Alors, pour Bruno Montal, pour le nom de famille, vous nous avez donné une piste. Pour l'institutrice, pourquoi Ariane ?
Alors, figurez-vous, et c'est là qu'on se rend compte que on ne sait pas ce qu'on écrit et on ne sait pas pourquoi on choisit. Je n'avais pas pensé un seul instant au fil d'Ariane, mais pas un instant. Et c'est j'ai essayé toutes sortes de prénoms. Et chaque fois que je présentais un prénom à ma conscience, si vous voulez, il était rejeté, chaque fois. Et Ariane, le prénom a été accepté. Et c'est après coup, le livre était déjà édité, quand je me suis dit, mais oui, elle est celle qui va guider l'enfant, comme avec le fil d'Ariane, et voilà. Voilà comment ça fonctionne.
L'histoire du choix du nom et des prénoms des personnages est toujours très intéressante.
Oui.
Et pour le petit Antonin, c'est...
Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi Antonin. Je ne sais vraiment pas. Pas du tout. Alors après, je fonctionne à l'oreille, c'est-à-dire que j'aime bien que quand deux mots sont côte à côte, il n'y ait pas de hiatus ou il n'y ait pas de quelque chose de choquant. Enfin, bon, j'ai jamais compris pourquoi Flaubert était obligé de gueuler ses textes pour voir si ça allait bien à l'oreille. Moi, je suis auditive, presque essentiellement auditive. J'ai beaucoup de mal à imaginer le physique de mes personnages. Mais par contre, quand j'écris quelque chose, je l'entends. Au moment où je l'écris, je l'entends. Et il faut que ça coule, d'ailleurs. C'est quelque chose qui revient très souvent. On me dit très souvent, c'est fluide, une écriture qui coule. Quand on le prend, on ne peut pas le lâcher, ou des choses comme ça. Et j'ai eu à ce sujet des petites disputes avec mon éditeur. Et là, par contre, il accepte tout à fait bien la discussion et on est libre chacun de faire ce qu'on veut. Bon, il a beaucoup de mal avec le rythme binaire, c'est-à-dire deux phrases ou deux verbes coordonnés par « et », par exemple, ou « mais ». Et ça, il considère que c'est un tic d'écriture. Moi, je ne considère pas que c'est un tic d'écriture. J'ai été élevée avec Verlaine et avec Racine. Et par exemple, le procédé de style, la polysyndète, qui consiste à répéter « et », tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire, vous enlevez les deux « et », il ne reste rien. Et Verlaine, une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, voilà. Donc j'ai été élevée avec ça dans l'oreille parce que c'était mes écrivains préférés. Et j'ai tendance, je le reconnais, à utiliser, autant j'ai horreur du rythme ternaire qui me paraît pompeux et réservé au discours politique, mais autant le rythme binaire, ça me convient très très bien. Donc, chaque fois, le manuscrit revient avec un tas de « et » soulignés. Et puis, on finit par trouver un accord. Et puis, voilà.
Bon, enfin, nous en avons une belle illustration dans ce texte que je recommande à nos auditeurs. Donc, dans ce livre, des moments difficiles, des moments de joie, des moments même de sérénité. Hein, oui. Des moments de sérénité. Et donc, je vous propose maintenant un moment heureux, un moment serein, en écoutant une In Paradisum du Requiem de Forêt que vous avez choisi.
parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie du petit Antonin et de Eliane Cerdan. Après avoir écouté un tout petit extrait de In Paradisum du Requiem de Forêt, Eliane Cerdan, ce choix n'est pas un choix fait au hasard, et j'ai cru comprendre que vous chantiez.
Oui, j'ai chanté pendant des années. C'était le chœur régional à Toulouse, qui était un chœur d'amateurs, mais qui était rattaché à l'orchestre du Capitole. Et j'avoue qu'une des choses que j'ai préféré chanter à la cathédrale Saint-Étienne en particulier, c'était le Requiem de Forêt, que je trouve magnifique. Et puis, par rapport au petit Antonin, il y a donc un chapitre où Madame Ferrière raconte une répétition. Les répétitions, à l'époque, se passaient à rue de l'Orient, dans une salle qui appartient, je crois, au Grand Orient de France, mais qui était utilisée par le Capitole. Et il y a eu, en effet, un moment, ça c'est autobiographique, ce passage, où, après un début de répétition très ennuyeux, avec des consignes et des projets et pas de musique, brusquement, José Aquino a donné un coup de baguette sur le lutrin, nous a fait lever, on a attaqué la messe en ut de Mozart, et je crois que jamais, pourtant on a eu des moments magiques, on a chanté même dans des pays étrangers, etc., et dans cette salle laide, triste, brusquement, ça a été comme si un souffle me traversait et que j'avais cette sensation d'être pénétrée par la musique et irradiée. Voilà, le mot, c'est irradiée. Et c'était pour moi une découverte extraordinaire, vraiment. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire une référence à... Voilà.
Donc les thèmes qui sont abordés dans ce livre, nous en avons déjà parlé. Je dirais que globalement, il y a trois grands thèmes. Le thème du passage de relais, de la transmission, de l'enseignement. On va y revenir dans un instant. Tout ce qui est recherche du bonheur, sens et quête de la vie. Et un passage sur l'écriture. L'écriture comme force libératrice, l'écriture comme outil et aide à la quête du sens de son existence. Alors, tout à l'heure, vous disiez, je fais des romans, je ne fais pas des essais. Il n'empêche que vous faites passer un certain nombre d'idées dans vos écrits, et en particulier au sujet de l'enseignement.
Oui.
Voilà. Alors, vous parlez d'une relation plus ou moins difficile dans le rapport professeur-parent. Alors, est-ce que vous pourriez préciser, ou au moins préciser, l'opinion d'Ariane sur le sujet ?
L'opinion d'Ariane, c'est la même que la mienne. Alors, je dois dire d'emblée que je n'ai jamais eu aucun problème avec des parents d'élèves. Mais j'ai assisté les dernières années à des choses absolument invraisemblables. Et je suis persuadée que le rôle que les parents ont joué en voulant se mêler de tout dans l'enseignement et en déstabilisant les enseignants et en supprimant en quelque sorte l'autorité du maître, et pour beaucoup dans le désastre actuel de l'éducation nationale. Voilà. Maintenant, je pourrais citer plein d'exemples de parents charmants qui nous ont aidés, qui ont vraiment collaboré. Mais j'ai toujours le souvenir de mon premier conseil de classe auquel les parents ont assisté. J'étais à Antibes à l'époque. Et je suis sortie du conseil de classe avec vraiment une boule au cœur en me disant « c'est fini, on ne pourra plus enseigner comme autrefois ». Et c'est pour ça que je dis dans le livre qu'on devrait afficher dans toutes les salles de réunion le Meunier, son fils et l'âne de La Fontaine, parce que c'est exactement ça. Un parent d'élève veut une chose, l'autre veut une autre. Bon, et entendre des parents dire, une maman dire au chef d'établissement « Mon fils ne viendra pas faire ses heures de retenue, je préfère venir les faire à sa place. » Bon, bah, quand on en est arrivé là, c'est ahurissant, quoi. Voilà.
Et il y aurait une solution, selon vous ?
Je crains que ce soit un phénomène de société beaucoup plus large et que le remède soit difficile à mettre en place.
Alors, dans le roman, vous parlez aussi des inspections. Alors, les inspections qui sont plus ou moins appréciées par les enseignants qui sont plus ou moins bien vécues, d'ailleurs.
Alors, je dois dire aussi que je n'ai jamais eu de problème avec une inspection. Mais on a vu un changement là aussi radical entre les inspecteurs de mes premières années d'enseignement, c'est-à-dire j'ai commencé en 69, et les inspecteurs qu'on a vus arriver à la fin de ma carrière, c'était le jour et la nuit. Les inspecteurs d'autrefois étaient en général des gens de grande culture et de grande classe, et qui, du moment que vous pouviez justifier votre méthode, vous laissez libre d'appliquer cette méthode. Les enseignants des dernières années étaient, je crois que le mot que j'ai employé, c'est besogneux péremptoires, c'est-à-dire qu'ils étaient attachés à des méthodes bien fixes, bien précises, un jargon qui était devenu un véritable obstacle entre les élèves et les textes et qui les empêchait de s'enthousiasmer, je crois, pour un auteur. Et en plus de ça, avec des diktats, c'était véritablement des diktats qu'il fallait exécuter. Exiger qu'un élève, au début de chaque cours, à écrire au tableau la problématique qui serait abordée pendant le cours. Exiger que tout soit programmé depuis le 1er septembre jusqu'au 30 avril. Il fallait savoir ce qu'on faisait exactement, découper en séquences, en séances. Moi, j'ai toujours été réfractaire et j'ai été dans l'illégalité jusqu'à la fin. Voilà.
Alors, donc, Ariane est un petit peu dans l'illégalité et vous employez une expression très, très intéressante et très évocatrice, c'est qu'elle n'est pas très réglementaire.
Non, elle n'est pas du tout réglementaire. Ouais. Mais en particulier, on a eu une consigne qui disait « On ne fait jamais apprendre un poème à un élève s'il n'a pas été d'abord expliqué ». C'est absurde. La poésie ne s'adresse pas à l'intelligence, elle s'adresse à la sensibilité. Quand je donnais des poèmes à choisir à mes élèves, chacun choisissait selon son besoin, même s'il n'avait pas tout compris. Même s'il n'avait pas tout compris. J'ai eu une élève qui suivait ses cours debout sur un lutrin parce qu'elle avait un problème de colonne vertébrale. Quand elle a eu à choisir, elle a choisi le poème de Baudelaire, « Sois sage ou ma douleur et tiens-toi plus tranquille ». On n'a pas besoin de lui expliquer le poème pour qu'elle comprenne que ça va lui faire du bien. Voilà.
Autre thème qui est abordé dans votre livre, on en a parlé au début de l'émission, c'est la recherche de racines, cette notion d'exil. Et vous parlez d'une mémoire... d'une autre mémoire, quelque part, c'est-à-dire oui. La mémoire de faits que l'on n'a pas forcément vécu.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est, cette mémoire ?
Alors, quand j'ai écrit la fresque en particulier, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui parlait à travers moi, c'était pas seulement mon exil personnel, mais qu'il y avait eu dans ma mémoire, peut-être, dans mon inconscient collectif, ou dans ma... voilà, il y avait eu quelque chose qui s'était passé et que je rapportais la voix de ce personnage. Mais il y a des choses encore plus curieuses. Quand j'ai écrit Le Rivage intérieur, j'ai inventé à ma grand-mère, qui a vécu à Smyrne pendant très longtemps, je lui ai inventé une histoire d'amour alors qu'elle était déjà fiancée. Or, je n'ai pas connu ma grand-mère. Je l'ai vue à Beyrouth jusqu'à mon départ, c'est-à-dire un an et demi ou deux ans. Puis ensuite, je ne l'ai pas connue. Et quand j'ai écrit ce livre, je l'ai envoyé à mon cousin qui, lui, a vécu à Beyrouth très très longtemps avec ma grand-mère, et qui me dit « Tu étais au courant pour cette histoire de grand-mère ?» Je lui dis non. Il m'a dit « Mais en effet, Elle a vécu une histoire d'amour alors qu'elle était fiancée, et c'est la raison pour laquelle, après son mariage, son mari, mon grand-père, l'a emmenée à Rhodes, vivre à Rhodes, pour l'éloigner de Smyrne. Or, je n'ai jamais su cette histoire, jamais. Donc, il y a des choses très curieuses.
Et enfin, le dernier thème qui est très porteur dans ce livre, c'est la capacité à l'écriture de permettre à se trouver, à se libérer, puisque à travers ce concours de nouvelles, il s'avère que le petit Antonin finalement se libère de son passé grâce à la force des mots, justement, bien transmise par sa prof de français. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui marche à tous les coups et qui est valable pour tout le monde?
Alors, moi, j'en suis persuadée. Je pense que l'écriture est libératrice. Pour moi, déjà, elle a été libératrice parce que j'avais porté le silence de l'inceste qui a perturbé mon enfance pendant toute ma vie. Et Noces de cendre a été vraiment pour moi un livre libérateur. Et quand j'ai entendu il n'y a pas très longtemps une femme écrivain dont j'ai oublié le nom et qui pour les mêmes motifs que moi a écrit un livre a dit « mais ça ne m'a libérée en rien ». J'ai été très choquée parce que je pense vraiment que l'écriture est libératrice. Beaucoup d'écrivains, je crois, seraient devenus fous s'ils n'avaient pas eu l'écriture. C'est vraiment un des moyens, avec la psychanalyse, qui nous permet de nous libérer de nos traumatismes, de nos névroses, je n'ai pas dit de guérir, hein, mais de nous libérer.
Voilà. Et vous avez le qualificatif pour l'écriture, l'écriture magique.
Oui, c'est magique. C'est magique. Oui, c'est magique. Voilà. C'est une chose magique, vraiment. Et puis dont on ne comprend pas tout. En ce moment, je suis en train d'essayer de réfléchir un peu sur l'écriture, mais c'est comme si on entrait dans quelque chose de très mystérieux et qu'on était sur une voie entre la conscience claire d'un côté, l'inconscient de l'autre, et il y a une espèce de va-et-vient entre les deux, mais c'est compliqué à expliquer, c'est très difficile à expliquer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'intelligence qui est première. Proust le dit quand il dit dans le Contre Sainte-Beuve, chaque jour j'accorde un peu moins d'importance à l'intelligence, et chaque jour je comprends que ce n'est qu'en dehors d'elle que l'écrivain peut saisir quelque chose de l'art et peut saisir les impressions. Mais je crois que c'est ça, en effet. Et c'est la raison pour laquelle, chaque fois que l'intelligence se met en veilleuse, y compris avec des paradis artificiels ou des raisons, voilà. Moi, j'écris beaucoup mieux, par exemple, en fin d'après-midi, parce que c'est le moment où je suis fatiguée, où l'attention se relâche et on a tendance à être, ou alors dans le pré-sommeil, où on a tendance à laisser parler en nous des choses qu'on avait contenues et un peu brimées pendant la journée. Voilà.
Voilà donc une magnifique conclusion. Merci beaucoup, Éliane Cerdan, de nous avoir illustré la force éminente de l'écriture, le rôle des enseignants et des écrivains dans la transmission, et puis l'éloge de la littérature et de la poésie. Je rappelle votre ouvrage, Le Petit Antonin, paru aux éditions Serge Safran. Merci à nos auditeurs, merci à Christophe Aubry à la technique. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission et je vous rappelle qu'elle est disponible sur toutes les plateformes numériques en podcast. Toutes les semaines, Parole d'auteur est diffusée le mercredi à 10h, suivie d'une première diffusion le vendredi à 19h et d'une seconde le samedi à 17h. Au revoir à tous, merci.